Hein? Demander à Annette, il y en a ben, demandé aussi à Viviane, hein, à tour de rôle, je crois qu'on est bien attaqué dans l'église, hein, au niveau de la santé. Parfois ça a été Tanguy aussi. Jackie, voilà. Donc, premier livre des rois, chapitre 18. Et moi je vais tout de suite au verset 21. Acap, 20 et 21. Acap, c'est un roi, hein, pour les 10 tribus du Nord. Acap, hein, c'est naturellement c'est au 8e siècle avant Jésus. Hein. C'est les 10 tribus qui sont en sécession, qui sont séparées de Jérusalem. Hein. Acap envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, donc les 10 tribus du Nord. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. » Donc il faut savoir que Baal, mais il y avait Astarté, il y avait 400 prophètes aussi pour Astarté. 850 personnes qui ont des révélations, des visions, et qui parlent au nom des divinités, qui font de la sorcellerie, qui font des sacrifices humains, et puis un bonhomme de l'autre côté, qui a réchappé au carnage, parce que Jézabel provient de Tyr et Sidon, des Phéniciens, et elle a marié un roi de Juifs, des tribus du Nord, Acap, et elle l'a amené la férocité. On élimine tous les gens qui parlent de l'Éternel, de la Bible, etc., et massacrer l'un après l'autre. Et donc, évidemment, si Élie est toujours vivant, c'est parce que Dieu l'a gardé. Parce que Jézabel n'était pas du tout une idiote. Hein. Elle est arrivée à éliminer quasiment tout le monde. Hein. Si je devais comparer Jézabel, je dirais Staline. Staline avec tous les chrétiens en Russie. Ok ? C'est un exemple, ou Hitler avec tous les juifs en Allemagne. Hein. C'est pour vous donner une comparaison. C'est du costaud, Jézabel. Hein. Ce n'est pas un petit accident de l'histoire. Il arrive que des gens sont comme ça au pouvoir et ils mènent une ronde infernale qui dure et qui massacre, hein, tout ce qui ne leur plaît pas. Et donc c'était le cas de Jézabel avec Acap, son toutou. Hein. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que Élie est arrivé à parler à la foule. Tout le monde est convoqué au Carmel. On va faire un autel avec tous les prêtres qui vont prier alentour et danser, etc., invoquer, pour que le feu du ciel descende sur les holocaustes, donc les victimes, les moutons, les bœufs. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a aussi un holocauste et du bois et Élie tout seul. Donc Élie, en plus, il dit, mettez de l'eau, mouillez-moi tout ça, videz des tas d'eau, tandis que sur l'autre tas, il n'y en avait pas d'eau. Donc, ils vont tous s'exciter pendant la journée, prier, les 850 prophètes, les idoles, et il n'y a rien qui va venir. Élie va rire, Élie va prier, et le feu du ciel va descendre sur les holocaustes, et vont être consumés. Bon, mais... Avant que la majesté de Dieu, de l'Éternel, se manifeste en faveur d'Élie et confonde les autres, tous les autres, eh bien, Élie va prendre la parole et dit « Jusqu'à quand allez-vous clocher des pieds, les deux pieds ?» Ça veut dire quoi? C'est ça, quoi. Et c'est une image de la population, je pense aujourd'hui, qui ne sait plus où elle en est. Comme dans beaucoup de situations, dans beaucoup de familles, on ne sait plus où on en est. On cloche les deux pieds. Alors, le peuple ne lui répondit rien. Moi, je me suis posé la question, pourquoi il ne répond rien? Et on va y venir après. Hein. Le fait, c'est que le mot « peuple », d'abord, désigne l'ensemble des 10 tribus du Nord. Pas la tribu de Juda et de Benjamin du Sud. Élie est issu d'une région au nord-est, de l'autre côté du Jourdain, dans la région du Golan, la région entre, je vais dire, la mer de Galilée et Damas. Et donc, c'est un territoire qui, au point de départ, est censé être juif. Il est issu de Galate, d'une tribu du nord. Alors, il y a plusieurs images dans le Nouveau Testament qui concernent Élie. On va voir ce que dit le Nouveau Testament. Allons dans Jacques au chapitre 5. Jacques, chapitre 5. C'est intéressant de faire un tour d'horizon complet de notre Élie, parce que c'est un personnage très important pour le futur. Jacques, chapitre 5, ça c'est page 922. 923 plutôt, chapitre 5, verset 13 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur, de Jésus? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie est un homme de la même nature que nous. Il prie avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Si bien que, puisqu'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de richesse économique, il faut tout importer, il faut tout acheter, et le pays se ruine. Et la deuxième chose, la cavalerie, l'armée qui se repose sur les chars, et la cavalerie, eh bien, est décimée. Il n'y a plus de cavalerie, il n'y a plus de chars, plus de chevaux pour mettre aux chars. Et donc, il n'y a plus de puissance militaire. Il faut bien vous dire que si la sécheresse tombe de plus en plus sur de grandes régions d'Europe, c'est le même processus. Le même processus. Et qui fera réfléchir les hommes sur leur folie, leur orgueil. Alors, Dieu brise cette puissance de Jézabel et de Acab simplement par l'absence de pluie. Alors, vous voyez, il prie avec instance pour qu'il ne pleuve point, ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, la terre produisit son fruit. Voilà. L'autorité de la prière, évident, et c'est pour ça que je vous parlais du Niger, où on ne touche pas, en général, en tout cas la plupart des musulmans ne veulent pas toucher aux chrétiens. Ils sont assez bien informés de ce qui se passe. Ici en Europe, on est très mal informé parce qu'on ne veut pas du tout connaître ce que Dieu pense. Et on fait des lois anti-Dieu, on fait des tas de choses et on veut savoir qui est Dieu finalement, même si on ne le veut pas. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À titre d'exemple, réchauffement climatique, vous n'y croyez pas, mais allez voir dans notre jardin, vous verrez, j'ai semé des oignons, ils poussent, j'ai semé des carottes, elles poussent, et des salades, magnifiques. S'il n'y a pas de réchauffement climatique, alors, c'est pas une inversion des choses, allez voir le jardin, ou la tour, vous verrez. Ça fait 4-5 ans que je le fais, mais cette année-ci, je vais encore ressemer là, dès que je vais un peu bien, des radis, etc. Nous aurons les leçons qu'il nous faut pour comprendre que nous ne sommes pas les maîtres ni du climat, de la météo, de rien du tout. Il faut reconnaître le vrai maître. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à page 781. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Ah, j'ai commencé au verset 14, mais je continue comme ça alors. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour lui publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs qui s'assirent. Bon, moi j'ai pris ce texte, mais pourquoi? Parce qu'il y a un texte un peu plus loin où Jésus est transfiguré, il est sur le mont Hermon. C'est le même pays que Élie, d'origine d'Élie. Il n'y a pas de hasard. Et pratiquement, sur le mont Hermon, il est transfiguré. Et qui est à côté de lui? Moïse et Élie. Ils sont là pour attester que Jésus est l'autorité envoyée sur terre de la part du Père. Il est le porte-parole, le messager. Il est le Fils bien-aimé. Écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc, ce que Jésus a dit dans la synagogue est appuyé, ici, ce que nous lisons, est appuyé lors de la transfiguration devant Élie et Moïse. Les deux grandes figures de l'Ancien Testament. Ces deux grandes figures sont les garantes, les cautions du bon envoi de Jésus en mission sur terre. Donc, quand vous avez, bien sûr, un peu plus loin, le récit de la transfiguration, j'ai fait l'erreur de ne pas le noter.
Jésus parle de Élie aussi, où il dit que le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois.
Oui.
Au verset 25.
Verset 25, tu peux le lire.
Donc Jésus atteste vraiment que.
Au chapitre 24, verset 25, oui.
Que Élie a vécu et que Élie a été béni dans son ministère. C'est la vérité que je vous dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel se fermait 3 ans et 6 mois. Et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon.
Voilà. Donc il est envoyé auprès d'une veuve, dont il va prier pour la résurrection de son enfant, qui est mort. Hein. Ça, c'est clair. Et puis, c'est le même Élie qui apparaît sur le mont de la Transfiguration. Hein. Et vous avez déjà vu ce texte? Sur la Transfiguration. C'est dans Luc, au chapitre 9, hein, verset 32, page 788. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il savait ce qu'il disait. Élie est là. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Pourquoi il veut des tentes? Parce qu'il pense que c'est l'accomplissement de Zacharie 14. Quand le Fils de l'homme revient, il y a la fête des tabernacles. On établit les tentes. Donc, il croit que le royaume va arriver, que Christ, dans sa gloire, est arrivé. C'est pas par hasard que Pierre dit ça. Hein? Alors, il y a une autorité chez Élie. Du temps de son vivant, sur terre, il y a une autorité du temps de Jésus quand il est sur terre, et il y a une autorité de Élie du temps où Jésus va revenir. Clairement, c'est mis dans l'Apocalypse. C'est un personnage extrêmement important, Élie. Alors, dans Apocalypse, chapitre 11, verset 3, Apocalypse, chapitre 11, verset 3, je devais prendre une comparaison, pour moi, Élie est plus important que Trump, ou que Poutine, ou que Macron. Il a une place capitale auprès de Christ, de la part de Dieu. Et quand il apparaîtra, il va provoquer, dans Apocalypse chapitre 11, verset 3, « Durant les tribulations, beaucoup de Juifs ne sont pas encore convertis, les tribulations qui vont venir. » Hein, il y a beaucoup de Juifs convertis maintenant, ça c'est clair. Avec l'Église, ils sont enlevés. Mais il y en a des autres qui sont durs de dur, qui veulent la tradition, etc., le temple. Et bon, ceux-là vont être persécutés par l'Antichrist. Et pour se convertir, il faut une manifestation d'autorité. C'est Moïse et Élie qui reviennent. Et c'est le cas ici, Apocalypse, 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Donc c'est 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Voilà. Les deux oliviers, deux chandeliers. Eh bien, ça, on retrouve dans, bien sûr, dans chapitre 4, verset 14 de Zacharie. On voit bien que c'est eux. Oui, c'est eux. Bon, nous, on continue. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a des allusions à Élie comme un homme très important, qui a une relation assez étroite avec la venue de Christ, dans le passé et dans le futur. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui peut nous donner le sens des événements, le sens des choses? Regardons dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Pas toujours facile les petites lettres, hein?
Page
196. Oui, 196, oui. D'ailleurs, quelqu'un a oublié dimanche passé sa Bible, là, ici, sur le muret. Alors, je pense que ça doit être Jean-Louis.
Nadine.
Nadine? Ah bon? Donc, Philippiens. Bon, alors, Michael peut leur prendre. Chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Or, si vous lisez les textes de l'Apocalypse, la gloire de Christ est accompagnée de la présence de Moïse et d'Élie. Donc, quand il y a des besoins qui vont être pendant la période de tribulation donnée à ceux qui se convertissent, au peuple juif, il y aura une manifestation d'abondance, comme Élie a reçu du pain des corbeaux, a reçu de l'eau du torrent, a reçu de la nourriture de la veuve de Sarepta. Dieu va venir au secours de son peuple Israël durant les tribulations. C'est clairement, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins, même dans les périodes de tribulation, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. C'est extrêmement important pour moi de savoir que Élie n'a pas de gloire par lui-même. Il a une gloire en Christ. Ça, je compte beaucoup sur ça pour que vous ne mettiez pas une gloire sur l'homme. Elle vient de Dieu, la gloire, et puis c'est tout. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 20, souvent, vous savez, sur la terre, on a tendance à glorifier les hommes, pour les élections, pour le cinéma, pour tout. Et puis même, il y a des branches de la chrétienté, surtout dans le catholicisme et dans l'orthodoxie, on glorifie les hommes. Sainte Rita, Sainte Claire, Sainte Marie, etc. Et on fait des statues, on fait des images, etc. Jamais, jamais Dieu n'a demandé ça. Hein. Jamais. Ce sont des déviations. C'est même des désobéissances à Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 19, tout d'abord, je reconnais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, les dernières actions plus nombreuses que les premières. Donc c'est une église hein, à qui le Christ il donne un beau diplôme, si on veut. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, nous voyons qu'à la fin des temps, dans l'Église, dans les Églises, il y a un retour d'une Jézabel, comme au temps du roi Achab. Il y a une personne qui prend autorité et qui arrive à conduire les serviteurs de Dieu à l'égarement. Sauf Élie. Donc, dans les tribulations, il y aura des puissances qui vont se manifester, pas seulement par l'Antichrist, mais aussi par l'une ou l'autre femme extrêmement douée. Ça existe. Actuellement, ça existe déjà aux États-Unis. Moi, je vois vraiment des comportements qui sont malsains, qui sont mal foutus, mais vraiment mal foutus. Joyce Meyer et tout ça, 400 remorques avec l'événement qui la suivent, des centaines de milliers de dollars qu'elle gagne, etc. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. C'est bizarre quand même, Jésus n'avait qu'une tunique et pas une pierre pour reposer sa tête, et il disait, ne vous souciez pas de quoi vous serez vêtu, de quoi vous serez habillé. Regardez, la liste des chants sont mieux habillés que Salomon dans sa gloire. C'est quand même bizarre qu'on fait le contraire. Et que plein de chrétiens se laissent avoir comme des nigauds à ces trucs-là. Donc, Jézabel est déjà en cours pour moi. Jézabel est en train de parler à droite et gauche. C'est très séduisant, le succès. Elle réussit bien, elle parle de Jésus-Christ, elle réussit bien, elle a fait un master, un doctorat en théologie charismatique et pentecôtiste aux États-Unis. Elle sait séduire les foules, elle nous y plaît. On avance dans les temps anciens. Bon, c'est clair que pour moi, le problème d'Élie se répète encore aujourd'hui. Le contexte dans lequel s'est dressé à l'époque d'Élie revient, le même phénomène revient. Alors, prenons maintenant dans l'Ancien Testament. Psaume 37. Psaume 37. Allons dans l'Ancien Testament. Psaume 37. Je donne peut-être l'impression d'être un peu boum boum, mais voilà. C'est pas toujours. J'aurais bien voulu me relever la nuit pour remettre tout en synthèse, mais voilà. Quand on n'est pas bien, on n'arrive pas à se relever et on se dit ben, il faut que j'aille recoucher, autrement je ne vais même pas pouvoir me lever. C'est comme ça. Donc dans le psaume 37, verset 11, les misérables possèdent le pays, ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. C'était le cas typique d'Élie. Tout le monde se fichait de lui, il devait se cacher dans la montagne, il avait peur, dans le torrent de Kérit, là, c'est, je l'ai vu, et là où les corbeaux l'ont alimenté, puis après, à Sarepta, autre part, à 2-3 journées de marche là, dans la région de Tyré-Sidon, une veuve l'a accueilli. Et pratiquement, le méchant forme des projets contre le juste, il grince les dents contre lui. Mais le Seigneur se rit du méchant. Il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et les arcs se brisent. Donc on voit que la méchanceté se retourne sur celui qui l'a organisé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quand Staline allait dormir, il avait 9 bunkers en béton, avec des portes blindées. Et quand il y avait juste une personne qui savait dans lequel il dormait chaque nuit, sa maîtresse. Mais pratiquement un jour, ce Staline, il a fait un infarctus. Et pour être soigné, il aurait fallu qu'il puisse appeler. Mais il était malade, il était dans le bunker. Et les hommes, les soldats, ne pouvaient pas rentrer. Ils ne savaient pas dans lequel il était. Il y est mort. Ça s'est retourné sur lui. La même chose pour le bunker avec Hitler. Ça se retourne toujours sur le méchant. Les bras, au verset 17, les bras des méchants seront brisés. L'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Leur héritage durera jamais. Moi, je pense qu'Élie a plus d'héritage que Staline ou Acap Jézabel dans le futur. Quand Christ reviendra, Élie sera là. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Regardez, ce sont des paroles qui sont dites par David dans cette prière, dans ce psaume. Et regardez, ça s'accomplit pour Élie. Mais les méchants périssent, les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Donc les beaux pâturages disparaissent, ça devient désert. Actuellement, tout est basé sur l'argent. Les plus belles forêts disparaissent sur la terre. Les plus beaux pâturages sont condamnés. pourquoi on veut se moquer? Dieu se rit des cieux en voyant les hommes. Psaume 2. Alors, verset 20. Les méchants périssent, les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent, en fumée. Et si vous voyez ce psaume en détail, vous allez voir que c'est une leçon profitable pour nous. Alors, dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Verset 1. Qu'est-ce que veut toujours dire Dieu? Il veut parler à Israël. Il veut le ramener à lui. Ésaïe 44, verset 1. Nous sommes à la même époque que Élie, hein, avec Ésaïe. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès la naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Mais Dieu avant a desséché la terre pour briser l'orgueil. Je me répandrai mon esprit sur ta race, mes bénédictions sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'air, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main, à l'Éternel, et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Or moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir, ce qui doit arriver? Voilà. Nous voyons vraiment, et puis c'est tout le sujet, c'est... les idoles qui ne parlent pas, les idoles qui ne savent rien annoncer, qui n'ont pas d'autorité sur les pâturages, sur la pluie, etc. Donc le chapitre 44, c'est assez intéressant de le lire. Ce dimanche, prenez le temps de lire le chapitre 44 d'Ésaïe, vous verrez que ça va dans le sens de toute l'idée qui tourne alentour de Ésaïe, de Élie. Jérémie chapitre 5. Tout ce qui se passe au moment d'Élie n'est pas isolé. N'est pas isolé. Ça peut être extrêmement actuel. Et ça s'est répété de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 5, verset 18. Au verset 19, mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur, le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme le son de la trompette, le cri de guerre, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé.
C'est où ça?
Jérémie, chapitre 5, je me suis trompé de chapitre. Chapitre 5, verset 18. En ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ne voient point, ils ont des oreilles, n'entendent point. Ne craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? Et nous voyons qu'il y a un débat. Dieu veut prendre autorité sur la rébellion et veut la briser. Veut la briser. Ça, c'est extrêmement important. C'est un thème général. Donc la colère de Dieu est un thème réel qui nous dérange aujourd'hui. Il s'exprime par la sécheresse, par la famine, par la ruine d'un peuple rebelle. Il s'exprime par la mort des soldats dans une bagarre, ils sont pas fidèles à Dieu, ils n'ont pas honoré Dieu, et la bagarre, la guerre se termine en leur défaveur, devant les Philistins, devant les Amalécites, etc. Hein? Et devant les Syriens, devant les Babyloniens. Chaque fois, échec, échec, échec. Pourquoi échouons-nous actuellement, nous, en Europe? Nous piquons 285 milliards dans les transactions internationales à l'Afrique, qui n'arrive pas à s'élever, à sortir de la misère. Mais nous nous moquons, hein. Nous retapons les réfugiés le plus possible. Nous nous moquons. Nous créons la misère, mais quand ils arrivent, on les retape. Hein? Et pendant ce temps-là, la Chine est en train de faire des cadeaux, et la Chine veut diriger militairement toute l'Afrique. Ça, c'est le plan. Donc, l'Afrique va échapper à l'Europe. Quand l'Europe ne peut plus pomper le sang de l'Afrique, elle est à terre. À terre, complètement. Est-ce que l'Europe le voit arriver ? Nous avons tellement de gens intelligents, tellement aveuglés par le péché, ils ne vont pas s'arriver. Alors, les échecs sont parfois voulus par Dieu pour casser l'orgueil. Parce que si l'Afrique ne s'est pas élevée jusque maintenant, c'est parce que tout le monde y a été prendre tout ce qu'il y avait. Hein. C'est pas normal ce qui se passe là depuis des siècles. Hein. Alors, l'échec, oui, l'échec est réel dans toute l'histoire et parfois est voulu par Dieu. L'échec des 850 prêtres de Baal et d'Astarté est voulu par Dieu. Et la mort de Achab et de Jézabel a été voulu par Dieu. Tout dans la vie d'Élie s'est exécuté. La colère de Dieu s'est exécutée. Alors, Paul a bien expliqué que la colère est un thème qu'on ne peut pas écarter de notre foi. Romains chapitre 1, verset 18. Parfois nous faisons des choses graves qui ne plaisent pas à Dieu et nous en payons les pots cassés tout un temps parce que Dieu maintient la pression et nous humilie tout un temps. Pourquoi ? Pour qu'on ne reprenne plus goût à cet orgueil, à cette vanité qui est en nous. À d'autres moments, il peut arriver qu'on ait pris goût à l'orgueil, à la vanité, et on en demande pardon tout de suite. On se met à genoux et on demande réellement, on se repent. Et Dieu répond et nous libère de sa colère, apaise les choses. Dans les deux cas, Dieu est là. Dans les deux cas. Et dans les deux cas, il faut savoir s'adresser à Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, donc manque de foi, toute injustice, manque de sainteté et d'obéissance à Dieu. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous avons une logique aveugle. Pour le moment, il y a du soleil, il fait bon. L'air pousse dans les champs. Il y a ça d'herbe. Vous voyez tous les tracteurs qui foncent, qui vont foucher ça d'herbe. Et puis vous voyez les ensileuses, les endaineuses qui font les endins, il n'y a presque rien. Et puis les ensileuses qui passent, on ramasse. Tout ce matériel qui tourne, qui consomme du mazout et qui s'use, eh bien, les dépenses sont bien plus importantes que le peu de foin qu'ils ramassent. La deuxième chose, ce qu'ils ramassent là est un aliment acide, déséquilibré, qu'il ne faudrait pas donner à la bête à manger. Il faut laisser pousser ça. Mais non, la logique, c'est on va foncer tous partout. C'est la logique de l'être humain. Elle est une logique aveugle. Elle est dirigée par le prince des ténèbres. Et ça, c'est qu'un exemple. Vous n'auriez jamais fait faire ça à un vieux paysan il y a 50 ans ou 100 ans. Parce qu'ils avaient plus de connaissances de la terre et de la vie biologique et tout. Et de l'intestin des vaches qui ne se dérègle pas quand on donne une herbe qui n'est pas acide. Mes amis, aujourd'hui, alors ils iront payer des pièces de rechange, du carburant, etc. Ils courent tous comme si on était en plein été. Quelle est cette folie qui nous a tous gagnés ? Et qui, je donne cet exemple pour le paysan, mais pour le reste, c'est la même chose. Hein. pour le reste, c'est la même chose. Je n'ai rien contre les paysans, ils sont courageux, mais ils peuvent s'égarer très loin. Alors, la miséricorde de Dieu reste pour moi quand même un enseignement de la Bible. S'il y a la colère, il y a la miséricorde. Dans quoi on le voit? Dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, on voit la miséricorde de Dieu. Et nous devons la rechercher. Nous, si nous croyons que Dieu est saint et juste, ben, recherchons la miséricorde. Recherchons son cœur qui peut pardonner. Recherchons son cœur qui peut nous bénir. Recherchons son cœur de père. Et allons vers lui comme un père qui a l'autorité, mais qui a beaucoup d'amour et de sainteté dans son amour. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset... je prends verset 1. Élie le Tishbite, donc le village de Tishbé, l'un des habitants de Galate, dit à Acab, « L'Éternel est vivant, Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon ma parole. » La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, donc vers la Jordanie, sur le versant, hein, de l'autre côté du Jourdain, j'ai vu cet endroit-là, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Que penser de cela? Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais il faut la saisir. Je me rappelle avoir semé du blé bio plein de champs, mais j'avais du blé du CNRS, un carré, comme ceci. C'est vraiment du blé spécial que j'avais eu de la peine à avoir et qui produit du blé barbu, c'est du blé primitif, ancien, très résistant. Et quand je l'ai semé, je repars chez moi. Je repasse en auto, qu'est-ce que je vois? Au moment où je suis parti, il y avait un corbeau sur le câble, un fil. Mais quand je repasse, il y avait 50-60 corbeaux sur le carré du blé du CNRS et pas sur le reste, pourtant qui était bio. J'attrape une rage. Je commence à maudire les corbeaux et tout le bazar, excusez-moi, hein, pour vous montrer comment je peux être et sans doute comment vous pouvez l'être aussi. Et puis, à un moment donné, je me dis, Seigneur, mais c'est ces bêtes-là qui ont donné à manger à Élie. Mais, Seigneur, si je priais pour les bénir plutôt que les maudire, je me suis arrêté, j'étais là. On dirait comme un andouille, mais heureusement que le Seigneur, l'Esprit Saint m'avait repris. J'ai prié pour les corbeaux. De toutes les journées qui ont suivi, ils n'ont jamais été dans le carré. C'est quand même bizarre, ça. Or, comment se fait-il qu'un animal peut dévaster une récolte ou un animal peut l'épargner? Parce qu'il a un directeur. Et selon les indications de son directeur, de son créateur, il se comporte de telle ou telle manière. Hein? Pourquoi est-ce que dans les montagnes des Alpes, dans le temps, quand les gens traversaient, il fallait les gros Saint-Bernard, hein, pour aller chercher les gaillards qui étaient perdus et qui les reléchaient, qui les réchauffaient, qui les couvraient en attendant qu'on vienne les chercher? Pourquoi est-ce que Dieu a créé Saint-Bernard? C'était des cols dans les Alpes, le col Saint-Bernard. Mais en attendant, pourquoi y a-t-il des choses qui se passent sur Terre qui sont élémentaires et les corbeaux ne sont plus venus me piquer mon blé du CNRS? Parce que j'avais demandé à Dieu de les bénir. Et j'avais remercié Dieu que les corbeaux étaient là. J'avais arrêté de les maudire. Voulez-vous, quand vous avez un mauvais voisin, un vilain gugus qui vous empoisonne la vie, hein, qui garde toujours sa voiture là, vous voudriez la mettre, hein, qui va promener son chien qui fait des strons là, les gendarmes à la place où vous allez marcher, comprenez? Ou qui laisse des poubelles dans la cage d'escalier, des trucs pareils. Hein, parce que, franchement, tout ça existe. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez en rage, en pétard, vous le maudissez. Ou en tout cas, ou si je le vois, je vais en sortir. Hein. Bon, il y a l'autre attitude. Et si je me mettais à genoux à prier pour lui? Pour son clébard, pour qu'il fasse ses proues de cacao de part. Hein, pour son chat, pour qu'il n'aille plus me dévorer mes sacs poubelles en attendant que le camion passe, hein, et les éventrer, Ou pour qu'il mette son auto de part, parce qu'il a une place pour lui. Non. Ou qu'il ne fasse pas de bazar jusqu'à 2h du matin avec boum, 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 etc. Bon, ce qui compte, c'est quoi? C'est de s'adresser au grand directeur. C'est de s'adresser à Dieu. Ce que moi je ne peux pas changer, Dieu peut le changer. Tout peut changer avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, ne maudissez jamais, bénissez. Bénissez. Voilà. Eh bien, ce qui s'est passé pour Élie, il a reçu des bénédictions de Dieu, les corbeaux, le torrent, et puis après il lui a dit, non, 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 il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de corbeaux, tu vas là-bas de l'autre côté, où tu traverses tout ça, 2-3 jours, et puis tu vas là-bas chez les Phéniciens, là il y a une veuve toute seule. Ben, il arrive, elle n'a presque plus rien à manger. Mais presque plus rien. Elle a un fils, ils vont mourir. Ils n'ont plus rien. Et pratiquement, Dieu multiplie la nourriture de cette femme et ils ont à manger. Alors, l'autorité de Dieu, la miséricorde existe. Si vous avez douté de la miséricorde, vous vous enfoncez comme une voiture dans la boue. Donnez des coups de gaz, vous enfoncez encore plus bas. Si vous voulez dans votre vie vous relever, adressez-vous au Dieu miséricordieux, au Dieu de bénédiction, pour les autres et pour vous-même. Ça, c'est une règle de la vie d'Élie. Alors, dans le premier livre des Rois, chapitre 17, regardons au verset 8. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Donc Dieu a ordonné à une femme, bah, c'est pas possible quoi. Je vais aller là-bas, je vais toquer à sa porte. Ah non, je crois pas ça. Oh, je crois pas que Dieu puisse lui avoir ordonné. C'est quoi mon problème? C'est que Dieu ordonne à cette femme de m'accueillir ou c'est moi qui ne veux pas que Dieu intervienne dans ma vie et parle à cette femme? Où est le problème? C'est mon cœur incrédule? C'est mon cœur qui s'oppose à l'action de Dieu? Tout le problème chez Élie, c'est qu'il se laisse conduire par Dieu. C'est une image de nous, pour nous ça, se laisser conduire par le Seigneur, même si ce n'est pas là qu'on a prévu, se laisser conduire là, parce que c'est là que Dieu a mis la bénédiction. Et il ne l'a pas mis autre part. C'est la même chose en amour, hein? Ah, j'aime celui-là, oh j'aime celle-là. Mais si Dieu ne l'a pas béni pour qu'il t'aime, en retour, tu peux toujours courir, tu te casseras la tête tout le temps, hein? Pour rien du tout, pour souffrir, oui. Alors,
quel chapitre?
C'est toujours le chapitre 17, hein, verset 8. Maintenant, moi je vais dans le chapitre 18, au verset 3, et parce qu'il y a un gaillard qui est intéressant là. C'est un des officiers du roi. Au verset 3, chapitre 18, verset 3, page 275. 275. La famine était grande à Samarie. Acab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Il les avait nourris de pain et d'eau. Acab dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les sources d'eau, vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux, aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Acab alla seul par un chemin, Abdias alla seul par un autre chemin. Quand Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il répondit, « C'est moi. » Va, dis à mon maître, voici Élie. Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur Abdias entre les mains d'Acab qui me fera mourir ?»« L'Éternel est vivant. » Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on n'avait pas trouvé. Donc les royaumes et les nations, c'est les tribus d'Israël. Donc il est à la poursuite, il est en chasse, et il persécute ceux qui éventuellement auraient accueilli Élie. Cet homme-là est rempli de terreur, aime Dieu, a protégé des serviteurs de Dieu. Mais il a vraiment le trouillomètre à zéro, il est dans la terreur. Parce qu'il sait qu'il risque sa vie. Il a un patron et une patronne qui sont féroces. Et donc, Abdias va bénéficier d'une mansuétude, d'une miséricorde qui vient de Dieu. Alors au verset 14, maintenant, tu me dis, va et dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis serviteur et vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Acab. Donc qu'est-ce qu'il dit à Abdias? Tu n'iras pas. J'ai compris. C'est normal que tu aies peur, mais moi je vais y aller. Je vais y aller. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le cœur de Élie, il y a de l'amour pour Abdias. Il y a de l'amour pour un serviteur de son ennemi. Et pour un traître, il ne devrait pas travailler pour l'ennemi. Il ne devrait pas travailler pour Jézabel. Il a de l'amour pour un traître. Il a de l'amour pour un Judas. Vous comprenez un peu maintenant pourquoi Jésus a eu de la patience avec Judas? Comment Jésus peut avoir de la patience encore aujourd'hui, certains dont il porte le nom de chrétien? Parce que nous trahissons combien de fois? Donc la miséricorde fait partie de la vie de Élie, parce qu'elle vient de Dieu. Cette miséricorde vient de Dieu. Il a de la compassion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à la place de Dieu. Il le dit au verset 15. Je suis le serviteur de l'Éternel. Moi aussi, j'ai besoin de servir miséricorde. Et je comprends que tu aies besoin de miséricorde. Ok? C'est ça que je vais vous dire. Si vous avez fait l'expérience que vous avez besoin de la miséricorde de Jésus, de Dieu, c'est normal que vous en ayez pour les autres. C'est normal que vous en ayez pour les autres. Quand ils font certains péchés, qu'ils désobéissent ou qu'ils s'égarent, c'est normal. Puisque vous-même, vous bénéficiez du même maître qui est plein de miséricorde. Ça, c'est fort important chez Élie. Élie avait quand même un cœur, un bon cœur. Et Élie dépasse le contexte. Il n'a pas de la hargne et de la rancœur contre cet homme qui est en train de servir son ennemi. Il y a une véritable autorité de Dieu dans la vie d'Élie. Et moi aujourd'hui, je vous invite à laisser Dieu avoir cette autorité dans vos vies et dans les événements de votre vie. Il vaut beaucoup mieux bénir que maudire. Rappelez-vous, Jeannot, Jean Bayeux, au champ avec des corbeaux. Quand il a béni les corbeaux lui ont fichu la paix. S'il les avait maudits, il aurait ravagé toute la récolte. Alors, nous avions des chats. C'est pour vous faire rire, peut-être. Chaque fois que j'allais visiter quelqu'un qui faisait de l'occultisme ou de la diablerie, le chat, un chat faisait un gros caca, comme si c'était réservé 15 jours, sur le lit, ou dans le salon, ou sur le seuil de la maison. C'est gai, tout ça. Au point que moi, j'étais enragé sur tous les chats qu'il y avait chez nous. Mais ma femme a beaucoup d'amour pour les chats et nos filles aussi. Donc j'étais en bagarre aussi avec ma femme et mes filles. D'où, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui voulait régner dans la maison? Le diable, forcément. Et me décourager pour aller en visite. Jusqu'au jour où on a prié pour les chats. Jusqu'au jour où on a prié pour les chats, oui. Il y en a eu plusieurs qui ont manqué de mourir. Et on a prié pour les chats et miracle. Ils vivaient, ils sont toujours vivants. Et on a prié pour les chats, et ils ne font plus de misère dans la maison, sur le lit, etc. Et bien sûr, si je vais chez quelqu'un où il y a de la diablerie, ben je dois en être averti autrement. Comment? Par la prière. Par la prière. En priant, Dieu nous avertit. Sans doute qu'à certaines époques, je ne priais pas assez, et Dieu permettait au diable et au chat d'avertir autrement. Prout. Hein? Donc, qui était en jeu dans ce problème-là? Mon manque de prière, pas les chats. Le problème, c'est de s'analyser soi-même. Le problème, c'est de voir où on est par rapport à Dieu. Pourquoi le diable peut-il se permettre ça avec moi? Pourquoi le diable peut-il faire ça avec moi? Est-ce que j'ai vraiment été à la hauteur de la situation? Vraiment, je me suis remis au Seigneur, dans sa volonté et dans la prière, et dans sa parole. Vous voyez? Il faut s'analyser. J'aurais pu être enragé toute ma vie sur les chats. Et heureusement, ma femme et les trois filles m'ont évangélisé en m'apprenant à aimer les chats et à me rendre compte que ce n'était pas les chats qui étaient en faute.
Mais ce n'est pas les idolâtres.
On les idolâtres.